Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne.
Alors, nous avons vu que le contentieux est difficile, mais que les sanctions sont réelles. Mais ceci étant, peut-être que nous allons connaître davantage de succès à l'avenir grâce à la Constitution et grâce à la question prioritaire de constitutionnalité, puisque la QPC permet maintenant aux justiciables d'invoquer des droits, ces droits constitutionnels. Et d'ailleurs, la décision récente du Conseil constitutionnel en la matière, la décision Schneig, montre que le Conseil constitutionnel s'intéresse à cette question de droit à l'oubli et à cette question de la conservation des fichiers. C'est certainement ce que nous allons notamment voir à travers l'intervention de Mme Boisdana sur constitution et droit à l'oubli.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, chers étudiants, Mesdames, Messieurs. Alors, ce que vous avez évoqué concernant, Monsieur le Président, avec ce que vous avez évoqué concernant la QPC et le fichier national FNAEJ, vous m'offrez une transition toute trouvée avec mon sujet, Constitution et droit à l'oubli. Les philosophes des Lumières ont jeté les bases de la société moderne en reconnaissant à l'individu un espace considéré comme privé, à l'abri de l'immixtion ou de l'ingérence de la vie publique. Depuis cette période, la notion de vie privée s'est progressivement imposée comme une valeur fondamentale inhérente à l'existence de l'individu et indispensable à l'exercice des libertés dans une société démocratique. Cependant, malgré la place centrale qui est reconnue à cette notion dans les régimes fondés sur le pluralisme politique, la notion de vie privée a évolué dans le temps et subi l'assaut des totalitarismes. Big Brother vous regarde, c'est la préoccupation principale de Wilson, le personnage principal de George Orwell dans 1984, alors même qu'il fait des efforts importants pour se ménager un espace infime de vie privée et arriver à écrire quelques lignes sur son journal personnel. La notion de vie privée est aussi actuellement confrontée aux conséquences des avancées technologiques. C'est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Avancées technologiques qui, en brouillant les frontières entre vie publique et vie privée, ont contribué à l'émergence d'une réflexion sur la reconnaissance d'un droit à l'oubli numérique. En effet, Internet a fait irruption dans notre vie quotidienne. Internet traite, conserve, utilise des données à caractère personnel. Or, ces dernières peuvent être utilisées de façon plus ou moins préjudiciable par un tiers. Il faut aussi préciser, c'est un secret pour personne, que le passage de l'internaute sur la toile est susceptible de porter atteinte à sa vie privée, puisque les traces de sa navigation peuvent permettre une diffusion plus large des informations qu'il a consenti à communiquer dans un cadre restreint. Il ne faut pas non plus perdre de vue, et nous l'avons vu avec Maître Bensoussan, que la durée de conservation et de diffusion de ces données peut être illimitée en dehors de toute régulation juridique. Les libertés de l'internaute peuvent être, nous l'avons compris, mises à mal par le développement du numérique. Dès lors, de quelle protection l'internaute peut-il se prévaloir au plan constitutionnel ? En la matière, c'est surtout la jurisprudence constitutionnelle qui a contribué à mettre en place des garanties. La Constitution, ne consacrant quant à elle pas de manière explicite le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel auxquelles se rattache le droit à l'oubli. Donc la protection du droit à l'oubli s'est progressivement développée à travers la jurisprudence constitutionnelle, mais le juge constitutionnel est amené à concilier ce droit avec d'autres libertés et avec les objectifs d'intérêt général ou les exigences de l'ordre public. Fondement de nos sociétés démocratiques, la vie privée a fait l'objet d'une protection juridique. ces supports sont connus, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme ou encore la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les avancées technologiques ont rendu nécessaire de forger une protection particulière à l'égard des données personnelles et ce fut l'objet de la Convention pour la protection des données à caractère personnel du 28 janvier 1981. Au plan interne, il faut attendre un peu. La reconnaissance a été progressive et lente, à mon sens. Le professeur Mail a évoqué la loi du 17 juillet 1970 pour voir inscrit dans le Code civil le droit au respect de la vie privée. Alors, fort de ce soubassement, de ces fondements, donc la protection du droit au respect de la vie privée par le droit international et le législateur a été relayée par la jurisprudence constitutionnelle. Pour le juge constitutionnel, le chemin était tracé, puisqu'il était admis que le droit au respect de la vie privée faisait partie du principe constitutionnel plus large, qui est celui de la liberté individuelle. Au terme de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui a acquis valeur constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, la résistance à l'oppression. La liberté proclamée par cet article 2 implique le respect de la vie privée. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé à plusieurs reprises, notamment dans la décision du 23 juillet 1991 à propos de la loi créant la couverture maladie universelle ou encore à propos de la loi relative au pacte civil de solidarité. Mais l'activité du juge constitutionnel s'est intensifiée ou affinée dès lors qu'il est devenu nécessaire de concilier la notion de vie privée avec d'autres libertés ou avec des objectifs d'intérêt général. Mais dans un contexte où la vie privée est fortement exposée aux ingérences des nouvelles technologies, l'arbitrage du juge constitutionnel tend désormais davantage à concilier le droit à l'oubli en tant qu'élément du droit au respect de la vie privée avec d'autres libertés ou avec les objectifs d'intérêt général. Pour ce faire, le juge constitutionnel va par exemple prendre en compte les différences d'accessibilité entre un message écrit et un message disponible en ligne. Il a ainsi été saisi de la loi du 13 mai 2004, dite loi pour la confiance dans l'économie numérique. Dans sa décision qu'il a rendue le 10 juin 2004, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur ces différences d'accessibilité d'un message selon que ce dernier est publié par écrit ou disponible en ligne, et ce au regard du régime de la prescription en ligne. Il a ainsi jugé que le législateur pouvait prévoir un régime de prescription différent pour les infractions de presse à l'égard des communications en ligne et des communications écrites. Cette différence s'expliquant en raison des conditions de réception distinctes de ces deux supports. Mais le juge constitutionnel veille à ce que cette différence de traitement entre les deux supports ne soit pas excessive au regard de l'objectif poursuivi, à savoir la lutte contre les infractions de presse. La loi déférée au Conseil permettait de prendre comme point de départ du délai de prescription la cessation de la communication en ligne. Au contraire, pour les messages publiés par écrit, le point de départ de la prescription est la première communication au public. Si l'on précise qu'un message peut rester accessible en ligne pendant plusieurs années, alors qu'un message publié par écrit l'est bien moins, le délai de prescription entre ces deux supports peut varier de manière considérable de quelques mois à plusieurs années pour les deux supports. Et au regard de ces éléments, le Conseil a jugé que les différences de traitement entre ces deux supports étaient excessives au regard de l'objectif poursuivi. Et il a donc considéré cette disposition contraire à la Constitution. À l'égard des délais de prescription, pour les infractions de presse, le droit à l'oubli de l'internaute exige de celui-ci peut-être une vigilance accrue pour lutter contre les faits ou les propos disponibles plus longtemps en ligne et qui lui causent un préjudice dans sa vie privée ou professionnelle. La problématique du droit à l'oubli croise nécessairement le chemin de la jurisprudence relative à la constitution de fichiers. Le juge constitutionnel a ainsi été amené à se prononcer sur la possibilité d'autoriser les sociétés de perception de gestion de droits d'auteur à mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatives aux informations, condamnations et mesures de sûreté. Cette possibilité a été ouverte par la loi du 6 août 2004, modifiant la loi du 6 janvier 1978. Il faut rappeler que la navigation et la communication sur Internet sont régies par le Code des postes et des télécommunications, qui pose le principe général d'anonymisation et d'effacement des données de connexion. Ce principe connaît quelques exceptions qui sont étroitement encadrées, par exemple le droit des opérateurs de conserver de façon limitée certaines données techniques ou de mettre à disposition ou de mettre certaines informations à disposition de l'autorité judiciaire. À l'égard des sociétés de perception de droits des torts, le juge constitutionnel a considéré dans sa décision du 29 juillet 2004 que la possibilité de mutualiser la lutte contre le piratage des œuvres en constituant des fichiers de données de connexion ne portait pas atteinte à l'exigence constitutionnelle du respect de la vie privée. Le juge a considéré que cette mesure est destinée à lutter contre les nouvelles pratiques de contrefaçon qui se développent sur le réseau Internet. Mais là encore, le juge a dû opérer un arbitrage entre liberté et intérêt général. Il a ainsi assorti sa décision de réserve en précisant que les données recueillies ne peuvent acquérir un caractère nominatif que dans le cadre d'une procédure judiciaire et par rapprochement avec des informations dont la durée ne peut pas excéder un an. En outre, le traitement de ces données est soumis à l'autorisation de la CNIL. Compte tenu de ces garanties, le droit à l'oubli de l'internaute pirate est ainsi concilié avec l'objectif d'intérêt général de protection de la propriété intellectuelle. La question de l'utilisation des données personnelles contenues dans des fichiers informatisés a également été soumise à l'examen du juge constitutionnel en raison de l'importance des enjeux en cause à l'égard des libertés et ce faisant du droit à l'oubli. Dans une affaire très récente, que l'on a déjà évoquée, et particulièrement marquante en raison des données sensibles soumises au contrôle du juge constitutionnel, les sages de la rue Montpensier ont eu à se prononcer sur la constitutionnalité du fichier national automatisé des empreintes génétiques, dit FNAEG. Cette saisine présentait en outre la particularité de s'opérer dans le cadre de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité inscrite dans notre Constitution à l'article 61-1 depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le requérant à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France. À la suite d'un conflit, le requérant a fait l'objet de sanctions pénales pour entrave à la liberté du travail, outrage, violence aggravée. De plus, au cours de sa garde à vue, il a été condamné pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique aux fins de rapprochement et d'enregistrement au fichier national des empreintes génétiques créé par le législateur en 1998. Cette loi du 17 juin 1998 n'avait pas été à l'époque soumise au contrôle a priori du juge constitutionnel. La décision 2010-25-QPC du 16 septembre 2010, qui est peut-être appelée à rejoindre la liste des grandes décisions du Conseil constitutionnel, est particulièrement intéressante à l'égard du droit à l'oubli du point de vue de la conservation des empreintes dans un fichier. À cet égard, le juge constitutionnel a considéré que la fixation de la durée de conservation, qui devrait intervenir par voie de décret, doit être proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions. La fixation de cette durée doit aussi s'adapter à l'âge de l'auteur. La jurisprudence du Conseil constitutionnel révèle à travers cette décision la nécessité d'opérer en matière de conservation des empreintes génétiques une double modulation. D'une part, celle qui met en balance la nature ou la gravité de l'infraction et la fixation de la durée de conservation, et d'autre part, l'âge de l'auteur de l'infraction et la fixation d'une telle durée. Il apparaît que de cette façon, le juge constitutionnel tente de ménager un espace pour le droit à l'oubli en conciliant la sauvegarde de l'ordre public et le respect de la liberté individuelle qui sert de fondement au respect de la vie privée. Si la jurisprudence constitutionnelle est conséquente et sans doute appelée à s'accroître en la matière, notamment à la faveur de la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, il reste que le droit à l'oubli n'est pas expressément consacré en tant que tel par notre Constitution. Des démarches ont été entreprises en ce sens, mais elles n'ont pas trouvé leur aboutissement. Et dans cette attente, il est nécessaire d'entrevoir des perspectives d'avenir. L'ampleur des risques pesant sur le droit au respect de la vie privée en raison du développement des technologies a semblé suffisamment important pour être au cœur des réflexions du comité présidé par Mme Simone Veil, qui a été chargée de réfléchir à la perspective de réviser le préambule de notre Constitution pour y inscrire des droits fondamentaux, et notamment le droit au respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel. Donc, après les travaux qu'il a menés, ce comité a rendu un avis défavorable à l'égard de l'inscription de ces données, de ces notions dans notre préambule, puisque selon ce comité, l'inscription de ces données dans le préambule n'apporterait rien de nouveau, n'apporterait pas de garantie supérieure, ces notions étant garanties par la jurisprudence constitutionnelle et par les conventions internationales. Bien. Les travaux que ce comité a menés lui ont pourtant permis d'auditionner un certain nombre de personnalités, dont le président de la CNIL, qui était très favorable à l'inscription de ces notions dans notre Constitution, pour justement prendre acte des risques qui pèsent sur les libertés. Les termes du débat relatif à la constitutionnalisation de ces deux notions sont clairement posés. Ce qui l'est moins, c'est la réponse que l'on peut apporter à ce débat. Si les risques qui pèsent sur les libertés en raison du développement de technologies sont indéniables, on peut en revanche s'interroger sur l'opportunité de procéder à nouveau à une révision de la Constitution alors que l'encre de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 finit à peine de sécher. De son côté, la jurisprudence constitutionnelle n'offre-t-elle pas des garanties suffisantes? Et nous avons vu qu'avec le développement de la question prioritaire de constitutionnalité, le juge constitutionnel a pu se prononcer sur des données aussi sensibles que les empreintes génétiques. La question reste donc posée, le débat ouvert, et sans doute en ce domaine, le temps doit faire son œuvre. Dans cette période de maturation et d'adaptation, c'est peut-être vers le tandem législateur et juge qu'il faut se tourner pour tenter de trouver une protection suffisante pour le droit au respect de la vie privée et des données à caractère personnel. Dans cette attente, le législateur doit aussi faire son œuvre, son travail, en tentant d'appréhender de nouveaux concepts, et notamment la délimitation qui est aujourd'hui très difficile entre espace public et espace privé. Et il faut, comme le disait le professeur Mail, rechercher à travers des standards internationaux relayés au plan interne des solutions communes à un problème qui est aujourd'hui largement planétaire, et faire appel également à l'expertise technique à combiner avec la régulation juridique pour tenter de préserver le droit au respect de la vie privée et les données à caractère personnel. À l'instant T, il est possible de penser que ces droits et libertés sont appelés à se transformer dans un monde où l'espace et le temps sont désormais conditionnés par le développement du numérique. Je vous remercie de votre attention.